130 livres, chronique du 10 juin 2019, et quelquefois j'ai comme une grande idée, de Ken Casey. Si l'essentiel des 894 pages des quelquefois j'ai comme une grande idée consiste en une immersion dans la psyché des Stampers, famille de bûcherons établie à Wakanda, Oregon, le lecteur en apprendra presque autant sur le clan en se tenant aux seules descriptions de la demeure familiale. Depuis longtemps, les habitants des environs ont pris soin d'éloigner leur logis des bras de la rivière éponyme, dont l'inexorable érosion des berges conduit fatalement à la voir emporter toute construction à sa portée. Mais ce serait mal connaître ces têtes de pioche de Stamper que de les croire intimidés par un stupide cours d'eau. Aussi s'emploie-t-il quotidiennement à renforcer le fatras de poutres, câbles, cailloux et traverses sur lequel repose leur grande baraque de bois, remplie jusqu'à la gueule d'un fameux bric-à-brac. Depuis que l'ancêtre Jonas a quitté le Kansas pour l'Oregon, cédant une dernière fois à l'appel du Grand Ouest avant d'en repartir vaincu par la nature hostile, ses descendants ont décidé qu'ils ne céderaient jamais plus le moindre pouce de terrain aux hommes ou aux rivières. Extrait. La maison elle-même s'était mise à le hanter. Plus elle grandissait, plus il se sentait paniqué et pris au piège. Elle se tenait là, sur la rive, cette saleté énorme, pas encore peinte, impie. Sans les fenêtres, on aurait dit un crâne, dont les orbites noires observaient la rivière couler en contrebas. Tenant du mausolée plutôt que de l'habitation, d'un lieu où finir sa vie, pensait Jonas, plutôt que du lieu d'un nouveau départ. Car cette terre débordait de morts, cette terre d'abondance où des plantes poussaient en une seule nuit, où Jonas avait vu un champignon éclore sur la carcasse d'un castor et en quelques heures furtives atteindre la taille d'un grand chapeau, cette terre de richesse était littéralement saturée d'une mort humide et terrifiante. Honni et craint par la petite communauté de Wakanda, l'irascible et édenté Henry, fils de Jonas, est désormais le patriarche des Stampers. Il soigne son style de pecno des cavernes et affiche en toutes circonstances la détermination d'un train de marchandises. D'un premier lit, il eut Hank, présence intimidante et chambreuse, athlète émérite aussi résolu que son paternel, dont la dureté de façade dissimule les insécurités. Hank gère désormais l'entreprise familiale aux côtés du brave cousin Joe Ben, chrétien fervent doublé d'un éternel ravi de la crèche. Après une traversée des États-Unis à moto, au retour de la guerre de Corée, Hank a ramené d'Oklahoma la blonde vive. L'orpheline, qui fut vendeuse de pastèques sur le bord des routes, croit avoir trouvé sa place parmi les Stampers et s'est vite muée en une taiseuse épouse de devoir, mettant sous le boisseau ses aspirations artistiques et sociales. Tous les bûcherons de la ville sont désormais en grève, réclamant une augmentation de leur salaire horaire en contrepartie du plafonnement légal de leur temps de travail. Tous, sauf ces satanés Stampers, au risque d'aggraver encore l'animosité à leur endroit. Il manque de brassures pour finir le travail avant l'hiver, de sorte que Hank a demandé de l'aide à son jeune demi-frère Lee, entre défi et boutade. Car Lee est quasiment son opposé. L'intellectuel binoclard a rallié la côte est dès qu'il l'a pu, et y boucle son cursus universitaire. Précieux, dépressif et aussi bêta assumé que son frangin est un mâle dominant, Lee accepte pourtant la proposition. Il s'agit moins de solidarité familiale que de prendre sur Hank une revanche qui l'ourdit depuis longtemps. Icône de la contre-culture américaine des années 60 et expérimentateur enthousiaste de forces stupéfiants à la mode, Ken Casey est connu du public français pour l'adaptation culte au cinéma de son premier roman « Vol au-dessus d'un nid de coucou ». Il considérait « Et quelquefois j'ai comme une grande idée », écrit dans la foulée et publié en 1964, comme son chef-d'œuvre. À l'image des autres titres de la collection « Les grands animaux » de Monsieur Toussaint Louverture, tels « Tous les hommes du roi » et « Le dernier stade de la soif », l'ouvrage est à la fois méconnu en France, considéré comme un classique outre-Atlantique, et mis en valeur par une traduction exceptionnelle et une fabrication de toute beauté. Cette tragédie intemporelle, la rivalité entre deux frères, sur fond de ruralité hyper réaliste, ne souffre pas de la comparaison avec l'œuvre de William Faulkner, avec qui Casey partage la faculté de faire résonner les voix justes et profondes, d'être faussement simple. Il s'appuie pour ce faire sur un procédé narratif rare et complexe, étirant le récit de chacun des épisodes principaux de « Et quelquefois j'ai comme une grande idée » dans un déroutant entrelac de points de vue. Un même paragraphe peut ainsi comporter le regard d'un premier protagoniste, combiné à celui d'un narrateur omniscient représenté en italique, et celui d'un second, écrit cette fois entre parenthèses, évoquant un événement ancien auquel l'action en cours fait écho. Le tout dans trois styles clairement distincts. Les psychotropes ont pu peser dans la multiplication des voix entre les oreilles de l'auteur. Autant dire que la lecture d'un tel livre, très copieux de surcroît, requiert une attention permanente et quelques retours en arrière. De quoi expliquer le temps qu'il m'a fallu pour en venir à bout. Déconcerté par l'approche de Ken Casey, comme par sa patience dans la résolution du drame familial, d'aucuns abandonneront sans doute l'authentique monument qu'est ce bouquin en cours de route, ce qui sera leur droit le plus strict, mais aussi un sacré gâchis. Derrière l'apparent fouillis des regards et des pensées se dissimule une construction savante, d'implacables ressorts tragiques, et la découverte fascinante d'un village de l'Oregon jusque dans les pensées les plus intimes de sa pléthore de personnages secondaires, de la prostituée Jenny l'Indienne au barman et sociologue amateur Teddy, en passant par le placide et maniéré négociateur Jonathan Dreger, ou le contremaître devenu délégué syndical Floyd Evenwright. Tout lecteur persévérant s'étonnera en sus de se passionner pour les techniques de découpe et de transport fluvial des grumes ou de la manière dont Casey rend l'humidité de la forêt oppressante au point de devenir presque tangible à la lecture. Mais le véritable trésor que recèle « Et quelquefois j'ai comme une grande idée » est bien la relation entre Hank et Lee, dont je me garderai ici de divulguer tous les développements. Disons seulement qu'une discussion aussi anodine qu'essentielle sur le jazz décidera de bien des destins. Dans une région qui ferait pourrir un homme comme un cadavre, les sentiments qui les animent prennent l'infinité des teintes de cette coexistence intrusive et subie nommée fraternité. Moins abordée que l'amour conjugal ou filial dans la plupart de mes lectures, elle est ici traitée avec une épatante justesse, combinée à une réflexion très actuelle sur les déterminants et les limites de la virilité. Entre pudeur, non-dit et affleurement intempestif de bienveillance et de haine pure, les deux fils de Henry Stemper finiront par découvrir s'ils peuvent échapper l'un à l'autre. Et le lecteur saura s'il doit prendre au sens littéral ou figuré le titre de ce roman majuscule, inspiré de la chanson populaire « Goodnight Irene »« Sometimes I live in the country, sometimes I live in town, sometimes I have a great notion to jump in the river and drown ».